nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Des petits avions et des hélicoptères aident l'armée et la police. Survole les émeutiers et les mitraille. Puis les pourchasse pour les mener jusqu'à la police pour qu'elle les prenne. Elle chasse à l'aube par l'hélicoptère, se fait dans toutes les rues. Les émeutiers, on les poursuit dans les rues avec des avions, on les mitraille pour les mener dans un lieu de ramassage où il y a des camions de l'armée où on va les mettre dedans pour les mener hors des villes, dans des camps de détention spécialisée en plein champ. après, ils sont menés hors des villes. On les mettra dans des camps. On les fera déshabiller, doucher, en pyjama, cellule individuelle, dans le noir. Ils auront très peu à manger et à boire. On ne parlera pas de jugement ou autre. Ils ne seront plus rien qu'un numéro, toujours seul dans la cellule. Le but du camp, c'est d'éliminer le plus de détenus. De déshumaniser avant sa mort le détenu. Il faut le priver de toute relation humaine. Le président de la République passe commande de plusieurs camps à faire à Franc-Blanc. Il lui dit, au lieu de faire des camps à plusieurs bâtiments, faites plutôt une forteresse. C'est plus simple et plus facile à garder. Un bâtiment en forme de cercle, ou au milieu, un autre bâtiment qui le dominera et sera le service de la prison. Aucune ouverture de l'extérieur du bâtiment, mais de l'intérieur, côté bâtiment siège. Vous ferez ça à 50 km des villes. Peut-être que plus tard, nous pourrons envoyer toute la racaille sur la Lune. Je crois qu'il y a déjà, depuis quelque temps, des serres en haut. Il faudra y aller voir. Plus besoin de bâtiments. Et toute une planète qui est une prison, c'est plus économique, même plus besoin de gardiens. Dans le temps, on envoyait dans les colonies la racaille. Maintenant, c'est pour les envoyer sur une autre planète. C'est la même chose. Maurice lui dit, mais attention, les indésirables que nous avons envoyés en Amérique sont devenus plus fort que nous. Le président lui dit, c'est naturel, les bêtes qui tuent les autres résistent plus et deviennent dominantes. Chez nous, ceux qui sont des futés, qui n'ont peur de rien, savent mieux se défendre et deviennent dominants. La racaille nous remplacera et deviendra comme nous. Elle sera mangée par les autres. Car la racaille, en prenant notre place, prend nos coutumes, habitudes et s'affaiblit en devenant plus civilisé. Un homme civilisé est plus fort, plus faible. Un homme civilisé est plus faible qu'un homme qui ne l'est pas. Parce qu'il a des tas d'interdictions, de contraintes qui le retient du naturel et de ses instincts. Tandis que l'autre n'a ni foi ni loi. Vide. que d'instinct et se défend plus facilement. Il se fiche de tout, sauf de ce qui lui fait du bien, tandis que l'autre a le sens du sacrifice et du devoir, ce qui le rend plus faible, n'osant jamais aller au-delà de certaines choses qui, pour lui, sont jugées inhumaines. L'autre se moquera de ça, il y ira, et puisqu'il y est allé, il a réussi à faire ce que l'autre, à cause de sa civilisation, n'a pas osé faire, il a gagné sur lui. Le barbare, le primaire, est plus fort. Et si sa force physique ne lui suffit pas, il joue sur sa faiblesse. Il n'a pas peur, c'est de tendre la main pour recevoir. Qu'on ait pitié de lui, du moment qu'il vit aux dépens de l'autre. La force du primitif, c'est sa force primaire, inculte, non civilisée, et sa faiblesse qui le fait vivre aux dépens de l'autre, au nom des droits de l'homme. Le barbare qui nous attaque prendra notre place, comme les barbares ont pris la place des Romains, et d'autres barbares prendront la leur, la civilisation, la douceur de vivre, la morale, l'humain rend l'homme faible. Maurice lui dit, cela, il faut que l'homme civilisé garde de sa barbarie. Les jours passent, les troupes s'atténuent, si l'on peut dire que la situation devient normale, c'est-à-dire avec quelques émeutes comme avant. Il y a beaucoup de prisonniers, de tués, de ruines. Maintenant, chacun reste et note ses victimes. Chacun reste et cherche à régler ses comptes, c'est-à-dire à dire que c'est la faute de l'autre. La nuit, des groupes d'hommes en noir font des opérations punitives. Ils vont chez les gens, défoncent les portes, des immeubles, des appartements, tuent, brûlent, viole, récupère ce qu'il a récupéré. La police laisse faire. soir, Gilbert rentre à pied chez lui. Il passe la soirée dans un restaurant avec Julien. Les rues sont vides, ne fait pas froid. Il va arriver face à lui un homme grand, mince. En passant, devant le passage d'une allée, se sent tiré par en arrière, pris par le cou. Il reçoit un coup sur la tête, tombe à terre et reste étendu. Il entend qu'on court. Deux hommes qui se battent au-dessus de lui. Espèce de voyou, je vais laisser tranquille. Ça te regarde pas, con. J'entends des coups. Il voit les deux hommes se battre, mais il ne peut rien faire. Puis, une course. Il voit un homme qui se penche vers lui, qui lui demande « Ça va ?» Il est parti, salaud. Gilbert fait vue de la tête, la main à tête. L'homme a une tête sympathique dans les 30 ans. L'homme lui dit, vous êtes blessé à la tête. Ça n'a pas l'air très sérieux, mais restez allongé et téléphonez aux pompiers. Gilbert lui dit, pas la peine. L'homme lui dit, on ne sait jamais. Sort de sa poche, un téléphone portable, et fait l'appel des pompiers. Il leur dit, il faut venir très vite. Il y a beaucoup de sang sur les cheveux. Mais la blessure ne doit pas être très profonde. Ce salaud, il voulait vous tuer. Gilbert lui dit, merci. Ils entendent la voiture des pompiers. Elle s'est arrêtée. L'homme va vers eux et leur explique. Ils viennent avec un brancard et mettent Gilbert dessus. Le pompier lui dit, vous venez aux urgences. Gilbert lui dit, pas la peine. Le pompier lui dit, si. On le met dans l'ambulance. Le pompier dit, vos papiers. Gilbert donne sa carte. Le pompier la regarde, la met sur l'écran et dit, ah, vous êtes le fils de M. Franblanc, le PDG du groupe Franblanc. Oui, le pompier lui dit, puisque votre groupe a une clinique, vous vous menez dans cette clinique. Et le pompier prévient par téléphone le groupe Riquin Jeune Tout, qui leur amène un pompier, qui leur amène un blessé qui a été agressé. Gilbert se sent bien, il a un peu honte que l'on fasse tout ce cinéma pour un petit bobo de rien du tout à la tête. Et l'ambulance part. Et l'ambulance arrive à la clinique Jeune Tout Riquin, qui se trouve en dehors de Paris. Une clinique ultra-moderne, toute blanche, à l'intérieur d'un grand parc. Elle est toute illuminée. Le portail de la propriété est ouvert pour leur laisser le passage. L'ambulance va jusqu'à l'entrée de la clinique. Elle s'est arrêtée devant la porte. La porte d'entrée de la clinique vitrée à deux battants s'ouvre, des infirmières et un brancard arrivent. Les pompiers sortent de l'ambulance, le brancard. Un homme en blouse blanche vient vers eux. Il est grand, mince, châtain, lunettes métal dans les 30 ans. Il dit furieux aux pompiers. Nous ne sommes pas un hôpital ici. Pourquoi nous amener un blessé de la rue? Nous sommes la clinique Jeune Tout, Pontoise. Vous savez ce que c'est? C'est la reine d'Angleterre ou le président des États-Unis viennent ici en même temps que vous, ils ont l'air de quoi? Il ne faut pas mélanger torchons et serviettes. Vous pauvres, vous pouvez vous les foutre où vous voulez. Le pompier lui dit, arrête ton cinéma, Ninus, et regarde ce que je t'amène, du premier choix, pas du supermarché. La carte. Tiens, lis ça. Mets la carte sur l'écran, l'autre lit. Pompier lui dit, alors, tu n'en veux pas de notre marchandise? Si tu veux, je l'amène à l'hôpital ou à l'hospice et on termine le travail. Et tu iras chercher ton or dans la décharge, Ninus. L'autre lui dit, ça va, je ne savais pas où il est. Le pompier ouvre la porte arrière et lui dit, tu vois, il est là sur le brancard. Le médecin dit, vite, 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 mettez-le sur le brancard. Et il est délicatement, Gilbert est délicatement mis sur le brancard blanc de la clinique. C'est des hommes en blouse blanche qui le soulèvent. Le brancard dit, vite, vite, sortez-le. Le pompier lui crie, ah, tu as peur qu'on te l'enlève maintenant. Le chariot entre dans la clinique, dans le hall. Le médecin dit, faut l'amener de toute urgence à la salle de soins, au premier étage, et lui préparer la chambre spéciale 5 étoiles. Les infirmières poussent le brancard. Le médecin le suit. Tout à coup, voit une femme habillée d'une blouse blanche, blonde, à chignons, le visage revêche dans les 55 ans, dire « Stop ! Qu'est-ce que ça veut dire, docteur Morel ? Vous faites mettre au premier étage, un accidenté, ramassé par les pompiers, la chambre à 50 000 par jour pour un train de savate. Lui dit, mademoiselle Poirot, voulez-vous vous taire? Traiter de train de savate, le fils de notre président? Elle hausse les épaules et lui dit, oui, lui. Il lui dit, oui, j'ai lu la carte et c'est bien lui. Mademoiselle Poirot devient toute blanche. Pardonnez-moi. Vite, allez, à la salle de soins. Vous voyez bien qu'il n'est pas bien. Et on le met dans l'ascenseur. Les infirmières, les médecins et l'infirmière-chef Poirot sont dans l'ascenseur. Ensuite, on sort de l'ascenseur, longe dans le couloir, porte à double battant, salle, genre salle d'opération. Il y a déjà des hommes, des femmes en blouse verte, bonnet et masque. Ils ont été prévenus par téléphone qu'il arrivait. On le dépose sur la table d'opération. On lui regarde le crâne. On lui tamponne le sang, le lave visage, lui met des tubes,
bon.
Met des trucs.
Je te laisse, madame. Tu peux fermer.
On le met tout nu. Il est frictionné. On commence à le soigner. Il n'y a pas grand chose. Une petite entaille. On lui met même pas une agrafe, juste un pansement. Puis,
tu peux fermer.
Il est sorti de la salle. Et mené dans sa chambre. Sa chambre, c'est une grande pièce avec un coin salon, salle de bain et terrasse. Ordinateur, télévision, téléphone. Ça ressemble pas à une chambre d'hôpital, mais c'est meublé comme une chambre style Louis XV d'hôtel grand luxe. On sort du brancard. Merde, je déshabille. Oh mon Dieu! Et on lui met un vrai pyjama. Un pyjama en soie crème. Une robe de chambre en soie bordeaux. Ensuite, il est couché dans un lit. Une belle infirmière qui a un décolleté très intéressant. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morvetti.